When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2010 et c'est l'épisode numéro 48. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets, Facebook, Google, Apple, Beatles, iOS, est-ce que je vais réussir à tout faire, Google Voice, Matt Murdock, non pas Matt Murdock, l'autre, le gars qui a beaucoup d'argent, MacBook Air, etc., etc. J'espère que vous allez bien, on a une super émission hyper chargée pour vous aujourd'hui. Et elle est d'autant plus chargée, mais il faut prendre ça comme une qualité, qu'on a à la fois Yann et Jeff. Vous allez bien ?
Bah écoute, ça va. Ça, c'est bien, pas sympa. Tu dis tout de suite que j'ai repris 2 kilos et c'est pour ça que c'est bien chargé. C'est pas sympa.
Ouais.
Et d'ailleurs, je tiens à dire que l'épisode, il va s'appeler l'épisode MacBook Air. Et oui.
Oh là là, ça y est, il est parti, lui. Il a tenu à, absolument à ce qu'on parle du MacBook Air. Écoute, si tu peux te retenir pendant les quelques premiers sujets, on y arrivera.
Je me retiens, mais là, je fais un câlin à mon MacBook Air.
D'accord, ok. On l'entend presque. Tu vas bien, Yann, aussi ?
Bah écoute, ça va très bien. Ça fait quelques jours que je suis en train de me demander comment je pourrais expliquer à ma femme que ce payer Kinect, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour le bien-être de notre petite famille.
Kinect, mais tu veux dire le truc Xbox?
Ouais, voilà. Ça fait quelques jours que je suis en train de baver devant, mais j'ai pas encore trouvé suffisamment d'arguments pour aborder le sujet avec ma femme. Mais sinon, ça va très bien.
Écoute, à mon avis, tu peux lui dire, regarde, Jeff, il a un MacBook Air. Comparer le prix du MacBook Air et du Kinect, le Kinect est largement avantageux. À mon avis, ouais. C'est un bon deal.
Je vais rajouter ça et je vais dire que c'est Patrick qui m'a suggéré cet argument, hein, juste au cas où ça part en sucette.
Enfin, pour le Kinect, je te conseille quand même de faire attention quand tu regardes sur YouTube toutes les vidéos de gens qui ont eu des accidents parce qu'ils se mettent l'un côté de l'autre pour jouer sur le Kinect, ouais, mettent des tartes absolument monstrueuses. Yann, fais bien attention.
Vous savez que le pire, c'est pas ça. C'est bon, ça y est, l'émission a commencé il y a à peu près 2 minutes et déjà on est parti n'importe où. Mais le pire, c'est pas ça. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis en train de mettre à jour mon iPhone avec l'iOS 4.2 et je l'ai commencé il y a, je sais pas, peut-être 3 heures la mise à jour, le download a pris 3 heures, il vient à peine de lancer la mise à jour en elle-même, donc je vais pas l'arrêter parce que je veux pas avoir à recommencer tout ça, mais il y a une chance faible, mais quand même, que mon ordinateur explose. Donc ne vous inquiétez pas.
C'est rassurant.
Si dans le podcast ça fait un petit peu bizarre, voilà, c'est normal. Mais oui, donc je disais, pour le Kinect, le pire, c'est le mec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais c'est très tech, donc ça va bien dans le podcast. Un type qui a acheté le Kinect et qui s'est mis à jouer avec son truc, sauf qu'il faisait un peu chaud chez lui. Donc, il a commencé à se déshabiller pour jouer, pour être un petit peu plus à l'aise. Et il s'est mis complètement à poil. Et sauf qu'il savait pas que dans ce jeu-là du Kinect, au moment où tu fais certains trucs, l'appareil prend des photos de toi. Donc, au moment où il saute comme un imbécile pour contrôler le truc du Kinect, ça prend des photos. Et une fois les photos prises, ça te les affiche dans ta galerie. Sauf que le mec, il n'a pas réussi à trouver de moyen de les effacer.
Et voilà.
Donc, du coup, c'était bien marrant.
Puis j'aime bien l'excuse, il faisait chaud chez moi, donc je jouais à poil.
Bah attends, je jouais au Kinect, ouais. qu'est-ce qui
t'as déjà joué
autre
à poil
raison
devant ton PC parce qu'il fait chaud.
Mais c'est pas devant son PC, c'est dans la. Attends, le Kinect, c'est de l'exercice. Tu commences à avoir chaud au bout d'un moment. Bon, t'es pas convaincu. Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait, toi, devant son Kinect? Bon, changeons de sujet, je sens que ça va partir dans des...
C'était quel jeu, encore?
Je sais pas, et je veux plus
okay,
savoir.
Ok, on passe.
Coupé. Je veux plus Hop. Savoir. Ok, bon, alors, les sujets un petit peu plus sérieux. Aujourd'hui, on va commencer avec Facebook, puisque Facebook a fait sa grande annonce la semaine dernière sur les Facebook Messages. Il y avait des rumeurs sur le sujet, comme quoi Facebook allait annoncer en fait un service d'email qui viendrait concurrencer Gmail, le service de mail de Google. Et quand Facebook l'a enfin annoncé la semaine dernière, il s'est trouvé que c'était quelque chose d'un petit peu différent, qui est effectivement un nouveau service de messagerie, mais pas complètement, qui vous donne une adresse email, mais pas complètement comme Gmail et a priori pas complètement en concurrence. Est-ce que vous avez suivi l'histoire tous les deux? Il y en a un qui veut nous expliquer de quoi il s'agit?
Ben, globalement, en fait, c'est un nouveau système que Facebook a baptisé système de messagerie moderne. Alors, c'était sous nom de code projet Titan. Et globalement, l'idée, c'est de regrouper donc tout ce qui est gestion de mail, gestion de texto, gestion de messagerie instantanée, les Instant Messenger ou les MSN Messenger, tout ça au sein d'une seule interface simplifiée dans votre Facebook. Donc, quand vous vouliez envoyer un email, un texto ou envoyer un message sur MSN, ben vous le faites au sein de Facebook. Donc ça, c'est en un mot, en une phrase, ce qu'ils ont lancé.
C'est pas encore disponible hein, pour ceux qui
non,
se demandent pourquoi ils l'ont pas.
Ça va
arriver dans les semaines à venir.
C'est juste disponible pour les employés de Facebook et quelques bêta-testeurs. Mais voilà quoi, il y a pas grand chose d'autre à ajouter. Tu disais que ça c'est pas vraiment un truc concurrent à Google. Moi je trouve quand même que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a dans Gmail où tu as donc tes mails, mais tu peux aussi faire du chat vidéo. Tu as un Instant Messenger aussi dans Gmail. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse envoyer aussi des textos dans Gmail. Donc j'ai quand même l'impression que c'est une réponse à tout ce qu'offre Gmail au sein d'une seule interface, non? Peut-être que
Jeff, t'es d'accord?
Si tu veux, pour moi, ce que fait Facebook, ce qui est assez intelligent, c'est de développer un vieux rêve qu'on appelle le Unified Messaging, donc la messagerie unifiée, où, un, tu as une boîte de réception unique pour l'ensemble des messages qui t'arrivent, donc le mail, le texte, le Facebook Mail, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est la capacité au système de savoir comment tu dois adresser tes interlocuteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux choper Patrick, je vais utiliser Skype. Si je veux choper Yann, ça va être du text message. Si c'est quelqu'un d'autre, ça va être de l'email. Et il faut que je sache quel est le protocole, quel est le média utilisé. Ce truc va complètement l'abstraire et je pourrais dire, bah tiens, si c'est Patrick, tu m'envoies un texte. Si c'est Yann, bah tu m'envoies un email. Mais ce sera complètement caché pour vous parce que ça dépendra en fait de mon choix de réception plutôt que vous qui devez décider à un moment ou à un autre quel est l'outil que vous allez utiliser. Et donc ça, je pense ça sympa. Leur approche, c'est de dire c'est pas de l'email, donc ça a pas de texte, ça a pas de CC, c'est beaucoup plus...
Mais attends, excuse-moi, je voudrais juste expliquer ce que t'es en train de dire, c'est-à-dire que moi, au lieu de me dire je dois lui passer un coup de fil, lui envoyer un mail ou lui envoyer un chat, je vais simplement t'envoyer un message sur Facebook.
Yep.
Et toi, tu le recevras là où tu es, que ce soit sur ton téléphone ou sur le web. Ou... C'est dans ce sens-là que c'est unifié.
Voilà.
D'accord.
C'est unifié
c'est toi qui,
au niveau de la
réception.
C'est
toi qui, en le consultant, va le... Ouais, c'est ça.
Et bah, c'est, en fait, je vais dire... Enfin, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore. Je suis dans la liste des early alpha beta testers, mais je ne l'ai pas encore reçu. Et donc... Ma compréhension de ce que me disaient les copains, c'est chez Facebook, c'est que tu vas pouvoir dire, bah tiens, si à un moment ou à un autre tu veux recevoir les infos, enfin les messages sur par text message, tu peux. Si c'est par email, tu peux. Et donc il y a un niveau de de déréférencement, si tu veux, de la méthode de communication qui sera disponible. Alors, est-ce que ce sera immédiatement, ce sera plus tard? Ça, je ne sais pas.
Ouais, à mon avis, l'un des facteurs déterminants, bon, si ça a peut-être pas été parfaitement clair ce qu'on a dit, mais ça veut dire l'un des éléments de cette nouvelle messagerie, c'est que vous allez tous avoir, vous qui avez un compte Facebook, une adresse @facebook.com, une adresse email @facebook.com. Et c'est pas encore disponible, mais vous pouvez déjà réserver votre nom d'utilisateur, votre nom d'adresse email, en réservant votre nom facebook.com/quelque chose. C'est ce quelque chose qui sera utilisé pour déterminer votre adresse email. Et moi, ce que j'en tire de cette histoire, c'est un truc dont que je voyais autour de moi depuis assez longtemps, c'est que les jeunes, entre guillemets, je fais les guillemets avec les mains, mais les jeunes se servent aujourd'hui de Facebook comme d'un service de mail. Et je m'en rends compte, il y a énormément de gens qui se servent de Facebook au lieu de se servir du mail. Et Mark Zuckerberg le disait lors d'une interview qu'il a donnée au Web 2.0 Summit. Il disait, moi, je discutais avec un gamin, enfin avec un de mes petits cousins, et je lui disais, alors toi, tu utilises quoi? Tu utilises le mail, le machin, le truc? Et l'autre, il lui dit, ben non, le mail, c'est trop lent. Et c'était pas lent, il disait c'est pas lent parce que ça prend longtemps d'envoyer le mail ou de machin, mais que c'est un petit peu formel, ouais. Quoi, tu écris
la, et il a aussi partagé le fait que c'était des milliards et des milliards de messages par semaine qui étaient véhiculés sur Facebook, donc c'est déjà une plateforme de mail monstrueuse,
ouais,
mais
c'est sûr.
Avec cette capacité en fait à utiliser l'identité unique, un, c'est intéressant, deux, il y a un bénéfice autour de cette identité forte, c'est le fait que bah, tu peux commencer à dire bah, tout ce qui n'est pas envoyé par mes copains Facebook, à la limite je le traite comme du spam, quoi.
Exactement, c'est-à-dire que étant donné que Facebook a déjà ces informations sur votre social graphs, votre réseau social, il peut décider, et vous pouvez le paramétrer bien sûr, mais il peut déjà décider pour vous, tout ce qui ne vient pas de mes amis ou des amis de mes amis par exemple. Ça, c'est l'iPhone qui est en train de redémarrer, ou des amis de mes amis, eh ben, ça va dans une boîte aux lettres un petit peu moins importante. Et ce qui vient de mes amis, ça va directement dans la boîte aux lettres des trucs qui m'intéressent de toute façon. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'innovations. La vitesse, comme je disais à l'instant, on n'a pas besoin, dans un mail, on tape le sujet, on dit bonjour monsieur, voilà ce que je veux te dire, au revoir monsieur. Là, il n'y a même pas de sujet. Tu dis ce que tu veux dire, c'est comme une sorte de chat rapide. Bon, ça a certains avantages. C'est vrai que, comme le suggérait Yann, il y a quelques similitudes avec Gmail sur certaines choses précises, mais ce n'est pas non plus exactement la même chose. Et puis surtout, de plus en plus aujourd'hui, les jeunes, là encore, j'utilise mes guillemets, vivent dans Facebook, quoi. C'est 50% des utilisateurs de Facebook consultent Facebook tous les jours. Et pour un site classique, le fait qu'ils y reviennent tous les jours, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, ajouter ce système de messagerie était quelque chose d'évident, mais ils ne se sont pas contentés de rajouter un email. Et moi, je suis curieux de voir ce que ça donne vraiment, quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant, et la manière dont ils l'ont fait est pas terriblement innovante, mais relativement innovante. Vous êtes curieux, vous aussi?
Ben, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas partager ton point de vue, comme Dawn Marie Souza, qui a fait les frais de l'expression sur Facebook et qui s'est fait virer pour le coup. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire.
Ouais, oui, tout à fait. Bah, c'est un autre sujet qu'on voulait évoquer. En fait, il y a eu deux employés d'une société qui n'a pas été nommée, je crois. Ou si elle a peut-être été nommée, bref, peu importe, qui ont dit sur Facebook, qui ont fait des critiques relativement légères de leur société en disant, voilà, je fais partie du club des indésirables, et parce qu'ils s'étaient fait pas très bien traiter dans leur société. Un de leurs collègues a dit, bah voilà, bienvenue au club, il faut faire ci, ça et ça quand tu es indésirable, en disant qu'en gros, la société les traitait mal. Et ils se sont fait virer, ils sont allés jusqu'au prud'homme, et les prud'hommes ont jugé que le fait de se faire virer pour dénigrer sa société sur Facebook était valide. Alors que les prud'hommes, généralement, sont plutôt pro-employés, ils ont justifié le renvoi. Et du coup, ça pose un problème énorme ça pose une question, disons, énorme sur la liberté d'expression et quel espace représente Facebook, parce que si Facebook est un espace public, bon, on ne peut pas trop critiquer sa société, mais si c'est sur leur page privée, est-ce que c'est aussi un espace public, puisque c'est leur page privée, ils parlent avec leurs amis, enfin...
Ouais, mais l'autre problème en fin de compte là-dedans, c'est que ça se passe aux États-Unis et
on parle pas de la même affaire alors.
Ah d'accord, je sais pas parce qu'il y a une petite coupure, j'ai pas entendu ouais. En l'occurrence, moi je parlais de Dan Marie Souza qui s'est fait virer pour avoir critiqué ou dénigré donc son superviseur sur Facebook et en fait donc ça a pris toute une ampleur puisque la NLRB
oula tu coupes NLRB, il y a pas de problème, vas-y.
Oui, voilà, c'est une sorte de syndic quoi, qui s'occupe finalement des pratiques illégales qui se passent dans le monde du travail. Et donc ça se passe aux États-Unis, qui se sont saisis donc de l'affaire parce qu'ils trouvaient que c'était un licenciement abusif. Mais de notre côté, et Jeff pourra confirmer ou infirmer, mais dans la plupart des États américains, un emploi quand tu travailles, la plupart du temps, il y a une clause at will qui signifie globalement que ton employeur peut te virer du jour au lendemain sans même te donner de justificatif quoi. Si jamais il veut te virer, il te vire. Et donc si dans ton contrat c'est spécifié que voilà, c'est ton contrat at will, ça va être comme ça. Donc même si effectivement on peut trouver ça dégueulasse qu'elle se soit exprimée chez elle sur son profil en privé et qu'elle ait critiqué son supérieur, si ça plaît pas à son supérieur, ben voilà quoi.
Mais moi, ce que j'ai
de problème à ce niveau-là, et ça montre très bien donc la problématique de s'exprimer sur Facebook, de penser un jour que c'est privé et que finalement ça vient hors de contrôle.
Donc, mais moi, ce que j'ai entendu de cette histoire, c'est que elle n'a pas justement légalement la décision a été jugée. Pas illégale, mais enfin fausse, et qu'elle ne pouvait pas être renvoyée. Et c'est surprenant, parce que ça, c'est aux États-Unis, mais en France, les prud'hommes ont jugé que le licenciement était valide. Donc c'est un peu
C'est le monde à l'envers.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment bizarre, quoi. Toi et Jeff, qui est familier du monde de l'entreprise, mais peut-être du côté un petit peu plus patronat, qu'est-ce que tu penses de la chose ? Si quelqu'un s'exprime sur son profil privé, il a quand même le droit de dire ce qu'il veut, non ?
Tout à fait, puisque aux États-Unis, on va défendre le free speech, le droit à la parole, comme un droit fondamental. Et donc, est-ce que c'était un profil privé ou est-ce que c'était une page publique ? C'est ça que j'ai pas
vu. C'est ça, en fait, qui va faire la différence. Mais d'après ce que j'ai compris, moi, c'était des pages privées dans les deux cas. Je me trompe peut-être. Si on se trompe, la chatroom, dites-le-moi.
Donc, si c'est free speech, clairement, a priori...
Entre parenthèses, note Teddy qui dit dans la chatroom, pas de boulot, pas de problème. Il a peut-être trouvé la solution, effectivement.
Et donc, dans ce cadre-là, si elle était virée... Alors, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Ils vont dire, oui, mais en fait, on ne l'a pas virée parce qu'elle avait critiqué son supérieur sur Facebook. C'est parce que c'était un problème de performance et se comportait pas bien avec les customers, etc. Et comme le disait Yann... comme la plupart des emplois sont at will, c'est-à-dire qu'en gros on peut te virer à tout moment, et c'est pas uniquement, c'est pas des petits emplois, c'est-à-dire que quand j'avais un contrat de travail moi aux États-Unis, c'était un contrat at will, c'est le cas de tout le monde.
Ouais.
Et donc ils pourront la reprendre si jamais il est prouvé que c'est à cause de ce truc Facebook, elle sera reprise et puis elle sera virée pour cause. D'incompétence, de performance, etc., elle se revirait de toute façon.
Bon, donc, oui, mais en gros, partons du débat qui a dit quoi où. Est-ce que, selon vous, la page publique de Facebook, les pages publiques, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un espace public. Mais la page privée, ta page à toi, dans laquelle tu dois inviter tes amis pour qu'ils puissent voir ce que tu écris, est-ce que c'est une page, c'est un espace privé ou un espace public, à votre avis ?
Je sais pas, moi je pense que c'est une question de bon sens. Jamais, déjà aujourd'hui, une page privée sur Facebook, on ne peut pas dire que demain, le restera. Avec Facebook, ils changent tout sans arrêt, le URL, etc. Tu ne peux en aucun cas être certain que le truc que tu as écrit aujourd'hui en privé restera à jamais privé sur Facebook. C'est complètement se tirer, enfin, jouer avec le feu, quoi, de se dire ça. Donc, déjà, la logique veut que si jamais tu es en train d'écrire quelque chose qui pourrait potentiellement, si quelqu'un est au courant, te coûter ton boulot, bah, tu ne l'écris pas. C'est tout. Je sais pas, après, ouais, la page était privée, non, elle était publique, machin, il était 14h30 quand je l'ai écrit, machin.
En gros, il était 14h30. Voilà, en gros, tu ressentes le débat, tu dis déjà, c'est débile d'écrire un truc de ce genre-là sur Facebook à la base. Donc,
ouais, voilà.
La exactement. Question se pose même pas, quoi. Ouais, j'aurais... à vrai dire, si on rentre dans le débat philosophique, moi, je suis sûr que je peux argumenter pendant 4 heures. Mais au final, je crois que c'est toi qui as raison. Ce qui est vraiment important, c'est ça, quoi. Faut pas être idiot. Et effectivement, sur Facebook, il faut pas dire ce genre de bêtises à la base. Donc, ouais. Bon. Surtout qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, dans la chatroom, ils disaient moi, j'ai mon boss sur Facebook en ami, etc., etc. Bon, bah oui, forcément.
Il y a beaucoup de gens. Oui, puis de toute façon, quand on dit c'est privé. Je veux dire, il n'y a rien de privé aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es juste un problème de settings au niveau de ta privacy et un print screen, donc une copie d'écran pour que ça arrive sur Facebook, enfin sur TechCrunch, etc. Donc ouais, clairement, tout ce que j'ai pu, enfin je veux dire, c'est la course aujourd'hui à qui est-ce qui va publier les mémos confidentiels le plus vite possible. Ouais. Et récemment, il y a un ingénieur de chez Google qui s'est fait virer parce qu'il a immédiatement forwardé. L'email qu'il avait reçu annonçant les bonus exceptionnels de Google. Et la raison pour laquelle il s'est fait virer instantanément, c'est parce qu'une partie des bonus était payée en cash. C'est-à-dire ouais. que si tu voulais récupérer ton 1 000 $ en cash, tu pouvais partir avec 1 000 $ en cash. Et c'est une tradition Google depuis le tout début. Parce que j'ai un copain qui était l'ancien CFO, enfin VP Finance, et il me disait qu'au tout début de Google, il allait chercher des millions de dollars en cash
à
la banque.
Des millions de dollars en cash? Ah oui,
pour distribuer les bonus avant Noël. Quoi. Mm. Et donc, si jamais c'était fait choper, c'était pas cool. Quoi.
Bah, effectivement, donc,
c'est une raison de sécurité qui les a amenés à prendre cette mesure extrêmement drastique.
Tu parles, pour les gens qui ne savent peut-être pas de quoi tu parles, Google a fait une annonce, on l'a appris grâce à cet employé qui a fait passer l'information sur TechCrunch, c'était là encore la semaine dernière. Google a fait une jolie surprise de fin d'année à ses employés, en leur donnant non seulement ce bonus de 1 000 $ en cash à tous, mais quand on vous dit à tous, c'est tous les employés de Google, sans exception. Mais en plus, ils ont instauré une augmentation de 10% de tous les salaires de toute la société, de 10% au moins. C'est-à-dire que il y a certains employés et des ingénieurs de haut niveau qui en ont eu un petit peu plus. Mais enfin, je ne sais pas, vous imaginez une société qui augmente ses employés de 10% sur toute la société, sans exception, c'est incroyable. Bon, ils avaient des raisons parce qu'ils étaient un petit peu en train de perdre leurs employés les uns après les autres et Facebook leur rachète, entre guillemets, leurs employés depuis des semaines, mais...
Ça fait des années même, puisque maintenant, tu as une...
Oui, je dis des semaines parce que les grosses...
Forte... Sont... C'est la plus grosse source de recrutement pour Facebook, c'est Google. Hein.
Ouais,
et c'est donc,
sûr.
Et puis tu peux rajouter Twitter dans le lot. Et donc effectivement, c'est un problème de rétention. Et il faut savoir aussi que chez Google, l'ingénieur de base va pas gagner énormément. Il y avait beaucoup d'avantages en nature qui ont été rognés au fur et à mesure. Et donc je dirais que là où Google était extrêmement compétitif. Il y a quelques années, c'était plus du tout le cas. Donc en fait, le 10% au travers de la société les ramène dans la, je dirais, dans le marché, mais guère plus. C'est vrai qu'on entend parler des ingénieurs qui se voient offrir 3 millions de dollars, 3 millions et demi de dollars en stock pour ne pas aller chez Facebook.
Bon, oui, bah, ça c'était dire, l'autre phase de enfin l'autre côté de l'histoire, c'est l'offre que Google faisait à certains employés en millions de dollars pour qu'ils restent et pour qu'ils passent partent pas chez Facebook.
C'est enfin, millions de dollars en stock, c'est pas des millions de dollars en cash, hein, c'est des millions de dollars en stock.
En action, oui.
En action. Oui.
D'accord. Mais enfin bon, je sais pas moi, 10% sur toute la société, c'est sûr que ça les ramène à un niveau compétitif et il faut qu'ils gardent leurs employés parce que là, il y avait une fuite des cerveaux terrible. Mais enfin quand même, 10% sur toute la société, c'est moi, ça me paraît incroyable comme décision.
Je crois que c'était évalué à 3,5 millions en fait pour enfin la totalité, enfin le coût de l'opération, 10% pour et légèrement plus pour les autres, ça revenait à 3,5 millions, ce qui est pas à l'échelle de Google, qui est pas non plus
à l'échelle de Google pas... c'est rien du tout, mais c'est sur les mois et les années à venir que ça va se compter. Je veux dire, c'est 10%, ta charge opérationnel de, je lance des mots dont je connais pas le sens, hein, mais la charge opérationnelle sur les employés, elle augmente de 10%. C'est pas négligeable pour une société.
Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, essayer de négocier.
N'est-ce pas, Jeff? Dis-moi que j'ai raison.
Oui, enfin, faut savoir aussi qu'ils ont une marge opérationnelle monstrueuse, hein, donc ça va bouffer dans leur marge. Mais bon, c'est une machine à imprimer l'argent, Google. Ça le reste depuis des années et tout le monde s'attend à ce que leur performance diminue et c'est pas le cas. Le gros problème de Google, c'est qu'ils restent aujourd'hui sur un business qui marche très très bien et ils n'ont pas encore vraiment décollé sur le reste. Et aujourd'hui, ils ont besoin de cette masse de talents en train de partir chez Facebook et chez Twitter, ouais, pour développer ces nouveaux produits, pour mener ces initiatives. Et le fait que il y a eu un petit peu un rebalancement au sein de Google de qui est-ce qui fait quoi, et Marissa Mayer est maintenant non plus sur la partie search, dans la partie moteur de recherche, ouais, mais sur la partie social media, etc., ça veut dire qu'ils ont vraiment pris ça au sérieux.
C'est sûr. Et entre parenthèses, Yann, ça représente 1 milliard par an quand même, l'augmentation de 10%.
Oh. Non, mais...
mais oui, mais, non, mais, c'est sûr.
Mais ce qui me fait halluciner...
Ah, ce qui te fait halluciner, c'est...
Ce qui te fait halluciner, c'est que... Salut.
Vas-y.
Désolé. Ce qui me fait halluciner quand même dans tout ça, c'est que... il faut attendre qu'il y ait une sorte d'hémorragie, qu'il y ait une fuite de cerveau pour débloquer ce genre de situation. En France, à chaque fois qu'il y avait, enfin, chez mes employeurs, chaque fois qu'il y avait une négociation salariale et que tu demandais, je sais pas, moi, 5%, on disait toujours, ah, tu sais, c'est compliqué, là, on est dans une phase de transition, machin. Et le jour où tu remets ta dème pour aller chez quelqu'un, hop, hop, oh, ah, ben, tiens, regarde, on vient de trouver 3, 5, 6 cas par mois qu'on va te rajouter, enfin, par an, etc., tu vois.
Par donc, mois? Oh, mais tu gagnes une convie.
J'ai rectifié.
Moving on.
D'accord. Donc Yann, tout à coup.
Et donc voilà quoi. Donc c'est dommage que et Jeff l'a dit, hein, qu'ils se sont juste remis à niveau par rapport aux offres du marché. Et c'est dommage de devoir attendre ça pour qu'on soit à nouveau réévalué par notre employeur. Et
c'est sûr.
Ouais, mais c'est la politique de Wall Street, où à partir du moment où tu es une boîte publique américaine, t'es pas censé faire ce genre de choses parce que t'es censé améliorer tes dividendes, tes machins, ou tu vas être puni sur le marché. Et la stock de Google a pas vraiment bien marché, hein, depuis quelques... Enfin, je veux dire, c'est pas mal, mais bon, c'est pas par rapport à la stock Apple, à l'action Apple, pardon, c'est ridicule, hein, la performance de Google.
Oui, ils ont pas eu la même growth non plus. Depuis. Nope. Bon, et eh bien écoutez, puisqu'on parle de Google et Apple et Facebook, il nous reste un géant de l'informatique qu'on n'a pas mentionné, c'est
Microsoft.
on sentait le sourire dans la voix de Yann.
Ah ben oui,
qui
là.
Où quoi?
Ben pour une fois que voilà, on commence à sentir les offensives de Microsoft qui étaient plutôt dans les cordes ces derniers mois, et donc ils viennent de lancer Kinect et là ils viennent de se lancer aussi Windows Phone 7, et je dois dire que donc je m'en suis acheté un
mignon. J'ai eu ton mail tout à l'heure où tu dis oui je serai là, pas de problème, et en dessous send from my Windows Phone, c'est un petit peu comme send from my iPhone, c'est très mignon.
Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai rajouté pour me l'adapter, hein, c'est comme ça. Mais bon, pour revenir au niveau de la news en tant que telle, c'est qu'on a eu les premiers chiffres concernant les ventes de Windows Phone 7 aux États-Unis, et il faut dire que c'est pas non plus mirobolant. D'après donc une étude qui a été menée, seuls 40 000 Phone 7 auraient trouvé preneur, si on exclut donc les 90 000 employés de Microsoft qui se sont vus offrir un par la société, ça fait seulement 40 000 périphériques qui ont trouvé donc preneur, ce qui est pas énorme hein, quand on compare à Apple et Google qui vendent grosso modo 250 000 devices par jour,
Par mois,
40 000
par
pour
mois.
un pas ah j'en suis pas si sûr hein, il me semblait avoir lu mais bon, peut-être. Mais voilà quoi. On reste quand même sur quelque chose d'assez timide, un lancement assez timide. Maintenant, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi qui ai voulu en avoir un, ça a été vraiment très compliqué parce que j'ai déjà un contrat qui tourne et finalement, ça m'est revenu à 650 dollars quoi d'avoir un Windows Phone 7. Donc, du coup, je
Ça,
comprends que.
c'est du fanboyisme. Hein. Tu devrais écrire à Steve Ballmer, S. Ballmer, non, Steve B. at Microsoft.com, lui raconter ça et demander s'il a pas quelque chose pour toi. Parce que franchement,
Non, mais
650 dollars
pardon,
pour cette merde, pour ce truc.
c'est 250 000 par jour, t'as raison, pour iPhone
Et Android.
et Android. Je sais pas comment j'ai pu faire l'erreur, mais 40 000, effectivement, c'est pas beaucoup. Visiblement, c'était surtout des problèmes d'approvisionnement. Mais 600 dollars, mais c'est parce que t'étais pas en fin de contrat, en fait.
Bah oui, justement. Donc j'ai voulu le prendre nu. Donc du coup,
Ouais, donc c'est le cas
les
pour tout le monde.
opérateurs t'assassinent. C'est quelque part, si tout le monde est, enfin, si la majorité des gens ont déjà un contrat qui tourne, ben ils vont pas se précipiter parce que voilà, ils sortent le jour pour en acheter un. Et d'ailleurs,
Oui,
de
mais c'est le
mémoire,
même
je
pro.
crois que
Attends, c'est le
le.
même problème avec les autres téléphones.
Oui, mais justement, au lancement d'Android, le démarrage n'avait pas été non plus fracassant. Si tu
C'est vrai,
retrouves
c'est vrai.
les chiffres, c'était pas fracassant. C'est au fur et à mesure que les abonnements se terminent, que les gens vont renouveler et éventuellement passer sur Android. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est un
Le
flop
lapsus,
avéré.
oui, sur Windows Phone. Mais oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut pas l'enterrer. Et puis, on l'a dit suffisamment de fois, le système est vraiment innovant et intéressant.
Ah, personnellement, je trouve qu'il est mieux qu'iOS. Le système d'exploitation, je le trouve supérieur à iOS à condition qu'il ait le multitâche et le copier-coller. Dès qu'il aura ça, c'est un avis
Ouais.
strictement personnel, je trouve mieux. En ce qui concerne le périphérique en lui-même, en l'occurrence, j'ai pris un LG, je trouve quand même que l'iPhone est mieux pensé d'un point de vue ergonomique. Mais
D'accord.
voilà quoi, c'était pour ceux qui voulaient avoir comme ça à chaud l'avis.
Barberousse dans la chatroom dit une pénurie, ça s'organise, hein. Alors, d'une part, à chaque fois qu'on a ce genre d'histoire, je le répète, ça n'a aucun sens ce genre de théorie. Personne au monde, à part des fabricants de produits de luxe,
Allô?
ne vont essayer de. Vous m'entendez plus?
Allô, allô?
Oui, toi tu silences un petit peu, Jeff, je ne sais pas pourquoi, mais.
Je sais
C'est.
pas si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez toi, mais
Non, non,
j'étais
c'est
perdu
bon, c'est
pendant.
revenu. C'est
Ok,
revenu, c'est
pardon.
revenu. Donc je disais, personne au monde ne va avoir des stocks qu'ils ne veulent pas vendre. Donc ça, déjà, j'y crois pas. Mais en plus, en l'occurrence, c'est pas une pénurie, genre les gens font la queue et tout le monde essaye d'en avoir, mais personne ne réussit. C'est une pénurie où il y en a quelques-uns dans les magasins, mais enfin, dans la plupart des magasins, les gens ne font pas des grandes queues, ça fait pas de démonstration, c'est pas. Donc bon, en l'occurrence, c'est pas du tout une pénurie organisée, quoi. Ça, n'y croyez pas, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une gestion un petit peu étrange de leur stock, et en plus, l'engouement n'est pas immédiat. Maintenant, il faut pas l'enterrer tout de suite, mais ça a pas fonctionné. Aussi, ça n'a pas super bien fonctionné au lancement, quoi.
Ouais, un
Enfin,
lancement timide.
oui, et puis faut voir, enfin, je veux dire, faut aussi mettre les choses enfin, tout est relatif au tout début, je veux dire, avec les marques comme ça. Et donc, moi, je sais que j'avais dit aux gens de Microsoft que s'ils m'envoyaient un téléphone, j'utiliserais avec plaisir, puis je leur donnerais mon point de vue, mais en acheter un, laisser tomber. Et en fait, le truc qu'ils ont eu du mal à faire, et je sais pas trop pourquoi, c'est que là où une politique aurait eu du sens avec eux enfin pour eux, qui aurait été de vraiment envoyer des dizaines de milliers de téléphones à leurs partenaires, aux gens influents, etc., pour qu'ils puissent jouer avec un peu la façon dont Google l'a fait quand ils ont lancé le Nexus One, où en fait, dès que tu rencontrais un employé de Google, il te donnait un Nexus One, quoi. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'était un peu l'idée, de manière à ce que...
Salut, ça va? Tiens. Oh, merci.
mais c'était ça, ils débarquaient dans les conférences par palette entière, ouais. les Nexus One, ils étaient distribués. Et donc, pourquoi ils ont fait ça? Bah, parce que ça permettait aux gens de se familiariser avec le téléphone, avec l'OS, tout ça, sans avoir besoin d'avoir un commitment comme vient de le faire notre ami Yann. Et je pense que c'était la bonne approche. Y a eu récemment chez Microsoft un gros meeting avec l'ensemble de tous les VC de la vallée, où on avait Ballmer qui parlait, etc., etc. Et on a passé une heure à entendre une présentation de Windows 7 Phone. On a vu le téléphone, etc. Et j'ai dit à Joe, qui est le patron en fait de l'activité téléphone, mais Joe Belfioré, mais ils sont où les téléphones? Il dit, j'ai pas réussi à en avoir. J'en ai pas installé. Il a fallu que je reprenne les téléphones que j'avais distribués en interne pour pouvoir les passer à mes partenaires pour qu'ils puissent développer sur la plateforme. Oh là là. Et en fait, ils ont un gros problème au niveau de leurs fournisseurs qui ne sont pas arrivés à temps. Ils avaient prévu de lancer au niveau marketing à telle date et donc ils l'ont fait. Mais il n'y a pas eu ce travail, je dirais, avec le banc et l'arrière-banc, ne serait-ce que pour créer le buzz autour du téléphone. Je veux dire, tu n'as pas eu les gens sur TechCrunch ou sur Twitter, etc., qui se sont pâmés devant le téléphone. Et pour être honnête,
il n'y a pas eu d'unboxing
Il n'y a pas eu d'unboxing, ça n'a pas été la fête, il n'y a pas eu de queue. Enfin bon, qui peut avoir les queues. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment créer un événement autour de ton lancement, il faut que tu le prépares, il faut que tu crées le buzz pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est ce que Steve Jobs fait comme un maître, de manière à ce que y ait une véritable attente de la part des consommateurs pour ton produit. Et ça, ils n'ont pas fait du tout.
Bon bah espérons, souhaitons à Microsoft que ça fonctionne mieux à Noël et qu'ils aient au moins les stocks pour fournir, parce que bon, c'est clair que l'OS est bon et la demande existe. Donc voilà. À propos de buzz et d'attente insoutenable, vous avez bien sûr, comme tout le monde, suivi les deux jours de buzz qui ont eu lieu la semaine dernière sur le site d'Apple, avec une sorte d'annonce mirifique, mirobolante, annonçant donc sur le site d'Apple, demain sera un jour comme les autres, un jour que vous n'oublierez jamais. Et là, le monde entier s'est arrêté de respirer. Tout le monde s'est dit « Ah, mais ça va être l'annonce des services de téléchargement, enfin des services de streaming, des services d'abonnement à la musique et à la vidéo. Il va y avoir ça, 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 ça et ça. » Et le lendemain, en fait, rien du tout. C'était l'arrivée très attendue, mais quand même, qu'on a attendu pendant longtemps, plutôt que de dire très attendue, des Beatles sur iTunes. Ouais. Non. Ouais.
Moi, j'aime pas les Beatles, donc franchement, rien à péter.
Quand même. Attends, non. Enfin, je veux bien que ça soit pas une grosse annonce, mais enfin, les Beatles, quoi. C'est un groupe un tout petit peu important musicalement. Et iTunes, ouais. C'est un petit peu la musique, quoi.
Ouais. J'aime pas les Beatles, j'ai rien à foutre.
D'accord.
Yann.
Non, mais je veux dire que les seules personnes qui auraient été vraiment très intéressées par ce genre de news ont probablement déjà les Beatles sur leur ordinateur, quoi. Donc du coup,
exactement. Je pense que c'est... arrêtons là. Pour être sérieux, 30 secondes. Yann est tout à fait raison. C'était un commentaire de mon copain Fred Wilson qui a dit le jour où iTunes est sorti, j'ai fait le j'ai pressé tous mes CD, je les ai chargés, j'ai des MP3 des Beatles depuis 8 ans, quoi. C'est quoi le truc? Et en fait, je pense que ce qui est important pour Apple, c'est que c'était un des derniers bastions anti-MP3, anti-numérique parmi les grands groupes et les grandes marques du monde de la musique. Et donc, finalement, ils ont craqué. Et je pense que c'est ça qui est franchement fondamental, et c'est important pour Apple. Mais tout le ramdam qu'ils en ont fait, franchement, c'est ridicule, quoi.
Bah moi, c'est un petit peu ridicule, je vous l'accorde. Mais il n'empêche que, comme tu le dis, Jeff, effectivement, c'est le dernier bastion. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on retient, bon, c'est un petit peu, ils l'ont dit, donc forcément, on va s'en souvenir un petit peu en s'en moquant, mais quand même... le dernier bastion de la musique est tombé ce jour-là. Et ce jour-là, iTunes est devenu complètement sans... alors évidemment, on peut chercher la petite bête, mais est devenu le... Non mais pourquoi tu te marres ?
C'est incroyable comment ils sont balèzes Apple. Parce que si jamais
Laisse-moi finir.
Ok, je te laisse y aller.
C'est parce que nous de notre mais je peux pas discuter quand tu fais ça.
Je mute.
Non mais continue, c'est marrant. Mais vous verrez que. Et c'est effectivement qu'ils sont très forts parce que finalement les Beatles on s'en fout, et comme vous le dites, vous avez complètement raison, tout le monde a déjà les MP3 sur son disque dur, donc on s'en fout. Mais ils sont très forts parce qu'ils ont transformé cette chose en événement, ils en ont fait un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est-à-dire que c'est le jour où la musique est complètement passée au digital avec les Beatles qui étaient les derniers. Et j'ajouterais aussi que toutes nos histoires d'abonnements et d'abonnements à la musique, d'abonnements à la télévision, enfin les trucs de data center et tout ça. Oui, c'est beaucoup plus important structurellement. Mais ce que les gens, le commun des mortels, va retenir, c'est que les Beatles sont enfin disponibles sur iTunes. Et entre parenthèses, tout le monde ne devait pas les avoir déjà parce que ils occupaient la moitié des tops et des charts de vente d'iTunes le lendemain. Donc ça veut dire que ça a très très bien marché. Donc je pense qu'il y a une sorte de vision un petit peu technophile, genre on se regarde le nombril en disant ha ha ha, iTunes a fait une connerie et Apple ils en ont trop fait. C'est pas faux, je dis pas le contraire, mais il n'empêche que c'est quand même un truc un petit peu significatif. Dans ce sens-là, bon, pour moi, c'est bon. Très sincèrement, je m'en fous un peu aussi, mais c'est pas aussi creux que les gens s'amusent à le penser. Maintenant, Yann, vas-y, fous-toi de ma gueule.
Non, mais j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste que si jamais Apple n'avait pas dit tel jour, d'ailleurs, je me souviens même plus c'était quoi le jour inoubliable, mais si jamais ils avaient juste mis à jour la librairie iTunes et ils avaient juste glissé les Beatles comme ça. Ça aurait pas été un jour inoubliable, tu vois. C'est-à-dire, tiens, les Beatles sont là maintenant. Ok, cool. Mais le fait d'annoncer ça de façon si théâtrale et de faire un buzz pendant 2 jours, etc., cette capacité qu'a Apple à annoncer des trucs complètement bidons et que le monde entier s'arrête de respirer et dire, oh mon Dieu, les Beatles sont sur iTunes. Voilà,
je suis d'accord. Et en l'occurrence, Yann, t'as complètement raison. tout le monde, la réaction a été unanime. C'était non, mais vous vous foutez de notre gueule là, quand même. Là, je dis pas du tout le contraire. Hein. C'est tout à fait.
Oui, et ça, et en tant que fanboy d'Apple numéro 1, caressant mon MacBook Air juste à ce moment, je reconnais que c'était n'importe quoi et que c'était what? Parce que tout le monde s'attend à.
Vas-y, fini.
Tout le monde s'attendait effectivement à ce que l'acquisition de Lala nous amène à un iTunes dans le cloud, qui est franchement quelque chose de nécessaire, parce que pourquoi, au grand pourquoi, est-ce qu'on a besoin de toujours se connecter à ces machins et pas tout faire en remote. Bref, là, dire non, mais finalement, c'est le truc le plus important, c'est les Beatles, franchement...
Je pense que c'était aussi ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire que c'est un caprice de Steve Jobs, qui est le plus grand fan de l'histoire des Beatles et qui se bat, c'est vraiment un combat pour lui depuis 10 ans pour essayer de les faire venir sur iTunes. Et en l'occurrence, bon, il a voulu tout le monde imagine très bien Steve Jobs qui vient à l'équipe web de d'Apple et qui dit bon, alors on va faire ça sur iTunes et on va le faire comme ça. Et là, tout le monde le regarde genre sans oser dire grand chose et qui fait alors qui lui dit que c'est un petit peu bidon son truc là?
Personne.
Ok, bon bah alors personne. Oui, bien sûr, Steve, on va faire ça, pas de problème. Et là, il est content parce qu'il a fait son splash avec les Beatles. Mais c'est un truc personnel, quoi. Donc bon, je peux le comprendre un peu aussi. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, vous aurez remarqué que j'ai une barbe presque digne de celle de George Harrison. Donc voilà. C'est en l'honneur d'Apple et des Beatles aussi.
Waouh.
Ouais, j'étais
Just wow.
Non, mais ça me gratte vachement, c'est terrible. Je comprends pas comment font les barbus. Si vous avez un délai, genre quand vous commencez à faire pousser votre barbe, au moment, au bout de combien de temps ça ne gratte plus, ouais. Prévenez-moi parce que là, mais j'en peux plus, quoi. Ça me gratte terriblement.
Vous êtes bien sur le Rendez-vous Tech, le podcast traitant des technologies. Non,
parce que bientôt, on va voir la Microsoft, le nouveau produit, le rasoir Microsoft connecté.
Le rasoir dans le cloud. En fait, voilà, ça te rase directement depuis Internet. Donc, l'autre.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Autre news d'Apple, c'est la sortie de l'iOS 4.2 qui est disponible depuis aujourd'hui. Donc, on est quel jour ? Attendez que je dise pas de bêtises. On est le 22, lundi 22, et iOS 4.2 est disponible. Pour l'iPhone, c'est pas des changements mirobolants. Par contre, pour l'iPad, ça apporte le multitâche, les dossiers, tous ces trucs-là. Et pour l'iPhone et l'iPad, ça permet l'impression sur les imprimantes Wi-Fi et l'impression à distance. Donc bon, ça c'est sympa, moi ça va pas me changer la vie, mais voilà, c'est pas mal. Mais par contre, le multitâche couplé à cette annonce de Google qu'on va pouvoir enfin éditer de manière correcte les documents Google Docs sur iPhone et iPad, ça va arriver ça aussi dans les semaines à venir, moi ça va pas mal m'aider à gérer les choses en mobilité sur mon iPad, personnellement. Vous avez installé iOS 4.2 ? Pardon,
ouais, j'avais dans la version bêta, et en fait le truc qui ça change ma vie, c'est la gestion multi inbox du client, donc de messagerie. Donc t'as la possibilité que tu as d'avoir les messages des différentes boîtes aux lettres que tu as mélangés dans ton inbox, c'est quelque chose qui est
la boîte de messagerie unifiée, mais qui avait déjà sur iPhone. Là c'est, tu parles de l'iPad, quoi.
Sur l'iPad, oui, tout à fait.
D'accord. Ok, donc bah voilà, donc l'iOS 4.2, super top moumoute, voilà. Autre chose un petit peu plus intéressante, c'est Apple et les cartes SIM programmables. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais tous les opérateurs du monde ont levé une sorte de front d'anti-Apple quand ils ont entendu parler de ça. Et pour le coup, c'est l'une des premières fois où j'entends que Apple est rentré se coucher très très vite. En fait, vous avez entendu parler de cette histoire ou pas ?
Du tout.
D'accord. C'est une sorte de carte SIM qui n'en est pas une. C'est une carte SIM intégrée au téléphone. Donc on n'a plus de trappe pour insérer la carte SIM, mais c'est une carte SIM qui est programmable, en fait. Donc vous achetez votre téléphone directement de chez Apple, et en fonction, c'est une carte SIM intégrée, comme le dit Léna Chou sur la chatroom, en fonction de l'opérateur que vous choisissez, la carte SIM intégrée est reprogrammée pour être adaptée à votre opérateur. En gros, ce que ça veut dire, c'est que Apple pourrait vendre ses appareils directement sur son site web sans avoir besoin de passer par les opérateurs au moment de la vente du produit. Alors, quand les opérateurs ont vu ça, ils ont dit « Ouh là là, mais ça… » Bon, ok, alors si vous faites ça, nous, on ne vend plus les iPhones directement, on ne vous fait plus la réduction de prix si vous prenez l'abonnement, donc tous les iPhones vont coûter 600 €, et donc, voilà, vous l'avez dans le postérieur, et nous, c'est totalement inacceptable pour nous. Et directement, au bout de 3 jours, Apple a dit… Alors, tout ça, c'est des rumeurs, des machins, donc on n'est pas sûr, mais visiblement, Apple aurait dit au bout de 3 jours… Ok, bon, bah finalement, on verra, genre en 2012, ce qui se passe. On verra d'ici là. Pour le moment, on va pas le faire. Donc, ça va pas arriver de sitôt. Par contre, il est possible que ça arrive sur l'iPad pour la prochaine version. Donc, on verra. Ouais. Mais ça, c'était surprenant.
Ouais, mais ça me rappelle un peu. C'est comme ça que j'ai fini à $650 sur mon Windows Phone 7, hein, quand je suis allé chez l'opérateur. J'ai dit, je veux ce téléphone. Ouais.
Tu veux ce téléphone? Et il t'a dit
qu'on l'active, donc on va vous vendre une puce. Et puis après, il y a les frais d'activation, vous comprenez. Donc, c'est aussi temps. Et puis voilà.
Appuyer sur
quoi,
trois boutons, c'est compliqué, quoi.
Exactement, tu vois. Donc, en fait, sachant qu'ils vont pas pouvoir te taxer pendant plusieurs mois avec un abonnement, donc ils te saignent bien avant de pouvoir être débarrassé d'eux. Donc, le fait que Apple puisse l'excuser comme ça avec leur mobile, ça doit pas les plaire, non.
Par contre, une information qui intéressera certainement tous nos auditeurs pour Noël, c'est qu'on risque de voir débarquer un iPad avec réduction si vous prenez un abonnement chez Orange. On parle d'un iPad à 275€ avec un abonnement certainement d'un an ou deux. Donc c'est évidemment le même système que pour les téléphones, mais c'est quand même intéressant, quoi. 275€ pour un iPad, pour le coup, ça devient vraiment abordable.
C'est la version 3G ?
Ah bah bien sûr. J'imagine, oui. Si c'est vendu avec abonnement, je pense pas qu'ils vont te vendre l'abonnement.
Ah d'accord.
Ça fait quoi ? Ça fait $400 ça ?
À peu près, ouais. Ils te vendent... Mais tu sais, chez nous, le... Ah non, mais en fait, l'iPad est aussi à 280... pardon, 400, 300... Ah, $499. Euros. Pouf, j'y arrive pas. Mais oui, non, je pense pas qu'ils te vendent l'iPad d'un côté et la carte SIM de l'autre. Et puis t'arrives chez toi, tu peux pas mettre ta carte SIM dans ton iPad.
Si.
Je pense pas. Donc ça, c'est la petite nouvelle en passant. Pour encore parler de relations entre Apple et les opérateurs, Google Voice est enfin sorti en tant qu'application indépendante sur iOS, donc sur iPhone principalement. Donc Google Voice, vous savez, c'est ce système qui vous permet d'unifier toutes vos lignes de téléphone dans un seul numéro fourni par Google et qui vous permet ensuite de rediriger les appels des différentes personnes vers d'autres appareils. Et certains pensaient que ça serait utilisable quand ça sortirait enfin en Wi-Fi. Et ben en fait non, il semblerait que les opérateurs aient dicté leurs conditions à ce niveau-là, puisque c'est utilisable uniquement si vous avez accès au réseau 3G, ce qui est un petit peu, enfin au réseau téléphone, ce qui est un petit peu surprenant. Vous ne pouvez pas recevoir un appel en Wi-Fi du tout, alors que ça pourrait fonctionner avec Google Voice. Donc il semblerait que les opérateurs n'aient pas encore complètement lâché l'affaire sur le service de la voix, ce qui n'est pas complètement étonnant, mais voilà, on y croyait un petit peu avec Google Voice, mais c'est pas encore arrivé. Entre parenthèses, Google Voice n'est pas encore en Europe, donc ça ne nous concerne que moyennement. Dernière chose sur l'iPad et les relations tumultueuses entre Steve Jobs et les marchés connexes, c'est ce projet de journal électronique de Rupert Murdoch, donc le mania des médias, qui serait exclusivement sur iPad et peut-être sur les autres tablettes aussi. Donc un projet qui se serait monté entre Rupert Murdoch et Steve Jobs pour faire un journal exclusivement sur iPad avec un staff, un vrai staff d'une centaine de personnes basé à New York. Et il serait mis en vente sur iPad exclusivement pour la somme de 99 centimes de dollars, 99 cents par semaine. Et ça serait du contenu exclusif, travaillé, etc. Alors, c'est intéressant parce que c'est Matt Murdock, décidément, Daredevil, ça me reste dans la tête. Rupert Murdock, qui s'intéresse vraiment au domaine de la publication électronique et qui comprend qu'il se passe quelque chose. Mais bon, avant de donner mon analyse, je vous pose la question à vous. Est-ce que c'est la bonne direction à prendre ?
Bah, je pense que le contenu veut être gratuit, mais à un moment ou à un autre, il faut faire marcher les économies. Et donc, que News Corp mette ses moyens de publication derrière ça, je pense que tu ne peux pas l'ignorer. Et c'est vraiment un partenariat avec Apple, c'est-à-dire que c'est pas... Enfin, c'est vraiment... Murdoch et Jobs qui se sont assis, qui ont discuté, etc. Il y a eu pas mal d'input de Jobs lui-même sur le design. Donc, je suis assez intéressé en fait pour voir ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, les solutions qui ont été retenues sont pas géniales. J'ai pas, moi, je paye pas pour le New York Times, je paye pas pour pour le Wall Street Journal, l'application que j'utilise beaucoup, c'est USA Today qui fait un bon job sur la présentation d'informations, etc. Les compétiteurs de type Flipboard, je pense que ça n'a pas franchement d'intérêt. Donc, je suis intéressé de voir ce qui se passe et je pense que je paierai pour un mois pour voir ce que ça donne.
D'accord. Oui, en même temps, $1 par semaine, c'est pas très cher. Pardon, Yann, ça t'intéresserait, toi, un truc comme ça ? T'as pas d'iPad, que je sache ?
Ma femme en a un, ouais. Et non, je pense que ça, faut voir, faut tester. La formule me semble intéressante. Après, faut voir le prix a l'air attractif aussi. Faut voir la qualité du contenu qu'il y aura. Mais bon, s'il y a une team complète qui tourne derrière avec du contenu exclusif, pourquoi pas ça ?
Ouais, le truc c'est que j'hésite en fait entre les deux opinions parce que je me dis. Pourquoi faire un truc exclusivement sur iPad? Ça va pas être économiquement viable, quoi. À 99 centimes par semaine, pour faire travailler 100 personnes à temps plein, c'est quand même un truc un petit peu osé. Donc, je sais pas si c'est vraiment sérieux d'aller uniquement sur l'iPad. Pourquoi pas faire une version iPad et une version web et une version, tu vois, téléphone.
Ah, mais c'est le problème de la fragmentation.
Ouais. Mais oui, mais c'est ça exactement. Aujourd'hui, il faut être partout. Tu peux pas te dire, je vais faire ça uniquement sur iPad. Le contenu designé, enfin,
ouais, mais ils ont déjà Wall Street Journal, hein.
Oui, d'accord, mais enfin, je sais pas. Ça me paraît étrange cette idée de se dire, je vais faire mon truc uniquement sur iPad. Alors peut-être qu'ils vont le faire d'une manière qui est tellement attractive qu'on va se dire, ah, mais il me le faut absolument parce que sur mon iPad c'est tellement adapté et on peut pas le faire comme ça ailleurs. Il me le faut sur iPad, mais il faut qu'ils séduisent tellement de gens pour faire fonctionner cette société avec 100 personnes. Peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont une formule magique qui va être tellement séduisante que ça va marcher, mais ouais, j'ai du mal.
Enfin, avec Steve Jobs qui est derrière lui pour le coacher, je vois mal en train de lui dire, tu sais, on va faire un truc, ça va bien marcher sur Firefox et tout, ça va être terrible. Non, ouais, à tous les coups, il va dire, écoute, tu fais ça exclusif iPhone, je te file 40% et puis voilà, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'étonne pas, quoi, le côté. Et puis, le fait de ne voir...
Il lui file plus que 40%, il lui file 70%. C'est le... Enfin,
oui,
le
effectivement, c'est dans l'autre sens. Mais le simple fait de devoir te dire que je n'aurai qu'un seul périphérique à gérer, ça te permet, de point de vue applicatif, au niveau du logiciel, de faire des choses beaucoup plus innovantes que si tu dois le faire à la fois pour iPad, iPhone, Android, HTML5. Oui, certainement, c'est possible. Mais plus tu vas t'étendre au niveau des plateformes, plus il va falloir que tu simplifies ton interface et moins ce sera innovant au final. Donc ça m'étonne pas qu'il lance un pareil comme ça.
Écoute, ouais, je pense que c'est pas la production de contenu qui va être puisque la production de contenu Fox et par définition News Corp avec tous ces bureaux éditoriaux etc journalistes et tout, ils ont le contenu. La question c'est quelle est la mise en forme, la mise en page, la production value comme on appelle ça, qu'ils peuvent mettre en place autour de l'iPad pour faire une expérience unique. Et c'est ça à mon sens qui est intéressant parce que s'ils arrivent à avoir fondamentalement un design de ce journal du futur qui correspond bien, ça
le journal du futur. C'est pas mal. Non mais c'est un peu ça. Non mais bon, vous m'avez un petit peu convaincu. Disons que je suis intrigué. Ok, je suis intrigué. Je l'achèterai ou je ferai l'essai gratuit et je l'achèterai pour une semaine ou deux. On verra ce que ça donne. Non, effectivement, pourquoi pas. Écoutez, avant de passer à la suite de l'émission, je vais faire une petite pause pour vous parler de notre sponsor. Est-ce que ça vous convient ?
Mais absolument. Bien sûr.
Super, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Hein. Non, je n'écoute que moi. Donc, notre sponsor, comme vous le savez depuis un certain nombre de jours, de semaines et de mois, c'est Numéricable. Et Numéricable, c'est l'opérateur informatique, enfin internet, téléphonie fixe et télévision qui est le plus fantastique et merveilleux que vous ayez vu de votre vie. Ça, vous le savez évidemment. Mais le truc, c'est que si vous le savez, vous êtes super chanceux. Mais est-ce que vos amis le savent aussi ? C'est là qu'advient, qu'arrive la question qu'il faut se poser. Parce que si vos amis ne le savent pas, vous pourriez leur en faire profiter. Et vous dites, je les rendrai heureux, plein de bonheur de savoir les bienfaits de Numéricable. Et vous y pensez le soir en vous endormant, mais par contre...
Tous les soirs.
Non mais bien sûr. Mais par contre, le matin venu, vous l'avez oublié parce que vous n'y voyez pas vraiment de vous êtes un tout petit peu égoïste et vous n'y voyez pas vraiment d'intérêt. Exactement. Eh bien, Numéricable a pensé à vous et se dit que c'est tellement bon de partager la joie de Numéricable qu'ils vont vous faire une offre spéciale pour le parrainage Numéricable. C'est-à-dire que grâce au parrainage, Numéricable vous fait gagner des sous, non seulement à vous, donc comme ça, vous vous dites « je vais peut-être en parler à mes potes », mais en plus, vos potes aussi reçoivent de l'argent. C'est-à-dire que, plus sérieusement, votre filleule qui s'abonne à Numéricable, parrainée par vous, reçoit 50 euros sur sa facture et vous, vous en recevez 100. Donc, n'hésitez pas à recommander Numéricable à vos amis, à vos friends et vos followers sur Facebook, Twitter et les autres, et même dans la vraie vie, vous ferez des heureux et vous serez vous aussi empli du bonheur de Numéricable et des 100 euros que vous aurez économisés. Donc, vous allez sur numéricable.fr, vous y trouvez les détails de cette offre et de toutes les offres de Numéricable en général. Et voilà, vous êtes informés, vous partagez la joie et tout le monde est content. Donc, on remercie Numéricable de leur sponsoring de nos émissions et on vous invite à aller les voir sur numéricable.fr. C'est la fin de notre message du sponsor et on passe à un autre sujet qui, j'en ai l'impression, va presque donner l'impression d'être sponsorisé lui aussi, tellement il va être... biaisé et
sans la moindre objectivité.
Voilà. C'est Jeff qui a tenu à mettre ce sujet dans l'émission. Moi, je me disais ok, pas spécialement, mais Jeff voulait nous parler de son nouvel amour, le MacBook Air. Jeff, je t'ouvre la scène, le micro est à toi.
Donc, dans la catégorie « Je l'ai rêvé, Apple l'a fait », je vous présente ce nouveau laptop qui s'appelle le MacBook Air, qui est, à mon sens, un vrai ordinateur portable. C'est-à-dire que c'est super léger, c'est tout petit, ça prend quasiment pas de place dans les affaires quand on part en voyage, et ça a une puissance de... Bah en gros, d'un ordinateur qui est un ordinateur traditionnel, un MacBook Pro 13 pouces, 15 pouces, avec un processeur qui est théoriquement plus puissant, parce qu'ils ont fait un excellent travail sur la mémoire flash et sur le bus, qui fait que ça torche de folie. Et j'ai même fait le test, mesdames et messieurs, j'ai testé avec World of Warcraft et je peux avoir 30 FPS à Dalaran avec ce petit bijou. Et donc à partir du moment où ça peut passer,
ça parlera aux connaisseurs, oui.
Voilà, exactement. C'est très cryptique, mais pour ceux qui connaissent, c'est quand même pas mal pour un ordinateur qui est quand même fondamentalement fait pour durer très longtemps en termes de batterie, pour ne pas avoir trop.
Tu as un 11 pouces ou un 13 pouces?
Alors, j'ai agonisé pendant 2 semaines, c'est pour ça que je ne me suis pas acheté dessus, pour savoir si j'allais prendre le 11 pouces ou le 13 pouces. Et in fine, j'ai pris le 13 pouces parce que,
je vais le refiler à ma femme et après je vais prendre le 11 pouces.
Bah écoute, c'est ce qu'un de mes copains a fait. Il a été acheté le 11 pouces et le 13 pouces et comme ça, il a pu comparer. Moi, j'ai décidé que pas exagéré quand même. Fanboy, mais pas trop. Et donc, j'ai pris le 13 pouces de manière à avoir les 256 gigas de disque parce que j'en ai quand même besoin. Le processeur à 2.16 gigahertz, qui est une ancienne génération de processeur Intel, mais qui est quand même bien boosté. Et surtout, la batterie qui dure 7 heures.
Et il t'a coûté combien, nous demande-t-on dans la chatroom?
$2,000, $2,500, quelque chose comme ça.
Oh là 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 là. Effectivement. Bah écoute, il a intérêt à tourner quand même à ce prix-là.
Il a intérêt à voler, ouais.
Mais Patrick, tu l'as vu la pub du Mac Air avec le gars qui le tient sur le bout des doigts?
Non, il faut avouer que j'ai vu la bestiole.
Est-ce que tu as vu la pub en question? Il le tient sur le bout des doigts, là. Mm-hmm. Parce que j'ai un pote qui a acheté donc, ce fameux MacBook et qui l'a ramené au boulot. Et je te jure que j'ai essayé et je me suis pété les doigts. C'est pas possible, son truc.
Non, mais attends. Le truc qui fait 1 kilo, quoi. C'est pas non plus 1,3 kg pour le 13 pouces. C'est vraiment l'une des machines les plus légères au monde. Il y a des netbooks qui sont effectivement beaucoup moins chers, mais dont la puissance ne leur permet pas de faire grand-chose. Enfin... Oh, ceci dit, moi, le PC sur lequel je stream la vidéo là, de l'émission en live, sur lesquels nous voient nos gentils auditeurs qui suivent en live, il pèse aussi 1 kilo. C'est un Dell que j'ai acheté il y a 5 ans. À l'époque, c'était un Celeron 1 GHz qui était, pour l'époque, très très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de machine vraiment similaire depuis et qu'Apple nous sort une très belle machine. C'est la seule de cette catégorie. Effectivement, il a une puissance qui est presque équivalente à celle d'un MacBook Pro 13 pouces.
$2,000, hein, il est intérieur. Hein.
Pour $1,758, exactement.
Ah, ben tout va bien alors.
Mais non, c'est une super belle machine, c'est sûr.
Ce que j'aime beaucoup avec, c'est que je me balade tout le temps et avec mon MacBook Pro 17 pouces, ça fait un peu lourd parce que j'aime bien en fait le confort du grand écran. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré en fait des grosses machines. Mais avec la puissance, la batterie, le fait que ça ne génère quasiment pas de chaleur du tout, quand tu es dans un siège en économie, dans un avion, et tu peux toujours travailler et tu n'as pas de problème d'écran qui déborde.
C'est sûr, mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui disaient, et moi y compris, c'est une sorte de netbook un petit peu surpuissant. Pas vraiment, c'est un processeur et une carte graphique et de la RAM et un disque dur, enfin un disque en solid state en RAM, qui sont d'une classe d'ordinateur portable, pas de netbook. Donc oui, ça coûte plus cher, mais c'est quand même une super belle machine. Et pour dire les choses clairement, moi, si j'avais un budget illimité et je pouvais choisir n'importe quelle machine de cette catégorie, donc un 13 pouces, il est évident que c'est la machine à choisir. Je veux dire, il n'y a pas d'autre machine de ce type-là qui fasse aussi bien en autonomie, aussi bien en poids et aussi bien en puissance. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres catégories, évidemment. Mais dans cette catégorie, il est clair que c'est le seul concurrent, quoi. Ou le gagnant, en tout cas.
Et je pense qu'objectivement, si tu vois, autant je pensais que ce serait franchement ma machine pour voyager, pour les conférences et tout. Et en fait, étant donné la puissance du bouquin.
Qui ouvre ces bonbons là, qui fait du bruit avec le papier?
C'est Jeff.
Ah, okay. Pardon, c'est moi. D'accord. C'est pas des bonbons, c'est mon courrier.
Ah, ok.
My bad. Et donc, pour moi, en fait, c'est de façon étonnante une machine qui pourrait tout à fait être une machine de bureau, à condition que tu la connectes à un écran 24 pouces ou 30 pouces en fonction de ce que tu as. Quoi. Et franchement, j'étais épaté par la puissance. Quoi. Je ne m'attendais pas à ça.
On est d'accord. Avant de passer aux news et rumeurs, est-ce que quelqu'un voulait parler d'Instagram? Entre parenthèses, on en parle à peu près toutes les semaines dans Upload. Donc, qui voulait en parler, en fait?
C'était moi, mais si tu en parles dans Upload...
En fait, ce qui se passe, c'est que Jérôme est tombé complètement amoureux de l'application. Et donc, il nous en rabat les oreilles absolument chaque semaine dans Upload. Il adore. Moi, je la trouve pas mal non plus, mais... Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Hein.
Donc, j'ai pas investi, donc j'ai pas de conflit, mais je suis un peu comme Jérôme, en fait. Je trouve que c'est, en termes de design... Pour une application de partage de photos mobiles, ils ont fait un excellent boulot de simplicité, de fonctionnalité. Et en gros, c'est le truc où je vais lancer Instagram deux fois par jour pour voir ce que les copains ont posté, pour commenter, mettre des likes, etc. Et c'est quelque chose que je faisais pas depuis longtemps sur Flickr. Et pour moi, en fait, je retrouve le même enthousiasme à utiliser l'application que Flickr il y a très très longtemps quand ils ont lancé en 2005.
Ouais. Oui, non, effectivement, moi j'étais très sceptique à l'origine et puis finalement je m'en sers un petit peu. Ce sur quoi j'ai des doutes, c'est sur la possibilité de durer d'Instagram. Mais visiblement, ils sont en train de travailler à s'étendre et à changer les fonctionnalités de manière assez conséquente. Donc peut-être que ça donnera quelque chose. Pour le moment, je la trouve sympa. Je ne suis pas sûr qu'on s'en servira encore dans 6 mois, mais peut-être qu'ils me surprendront. Yann, tu l'as pas, j'imagine, l'application, puisque tu es sur Windows Phone.
Non, non, non. Et j'étais en train de l'admirer. Je le trouve de plus en plus beau, en fait.
Attends, Windows Phone.
Ouais.
Ce qui est génial, c'est que lui, au moins, il a pas d'appli qui le pollue parce qu'il regarde son client mail, il regarde son browser, il regarde ses photos, et puis voilà quoi.
Ça commence à arriver les applications sur Windows Phone quand même.
Ah ouais, il y en a vraiment énormément comparé à la quantité d'applications qu'il y avait par exemple sur le Palm Pre où tu pouvais les compter sur les doigts d'une main même après 2 mois après la sortie. Là, il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'on a passé la barre des 1000 applications qui ont été publiées. D'accord. Et j'attends encore ma clé développeur. Donc non, franchement, il y a beaucoup d'applications. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais en tout cas, il y en a beaucoup.
OK.
Ah bon, quand tu poses la question aux développeurs qui comptent, donc les gens qui ont développé sur l'iPhone, est-ce qu'ils comptent avoir une version Windows 7 mobile, ils te disent montre-moi entre 5 et 10 millions d'unités, et à ce moment-là on commence à se poser la question quoi.
Ouais. On en reparlera dans quelques mois. On va passer aux news et rumeurs rapides. Donc, je vais en sauter quelques-unes. Il y en a quand même pas mal que j'avais noté là. Première chose, les évolutions de la redevance sur la copie privée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que PC Impact a mis la main, je lis presque texto la news de Mac Bidouille sur laquelle j'ai trouvé cette info. PC Impact a mis la main sur le compte-rendu et les documents de la dernière réunion de la commission chargée de statuer sur les montants de la redevance au titre de la copie privée. Vous savez qu'on paye déjà une redevance, donc une petite taxe, sur tous les médias, les disques durs, les iPods, tout ça, les CD vierges que nous achetons dans le commerce. Et évidemment, cette joyeuse commission a décidé que les iPads et tous ces appareils les iPads c'était déjà le cas, mais je veux dire, avec la capacité qui augmente, il va y avoir un nouveau barème pour la redevance sur la copie privée. Et je vous donne un exemple, si je vais réussir à le trouver. Jusqu'à maintenant, un disque dur de 1 Tera, la redevance était plafonnée à 20 euros. Et aujourd'hui, les disques durs vont être pris en compte jusqu'à 5 Tera. Et par exemple, un disque dur de 3 Tera octets aura une redevance de 48 euros hors taxe. Ce qui est, mais hallucinant. Enfin, 48 euros, vous vous rendez compte, c'est monumental, quoi. C'est une taxe d'autant plus scandaleuse qu'elle est censée, on ne sait même pas ce qu'elle devient cette taxe, je veux dire elle est censée aller aux artistes, je ne suis pas certain que la SACEM reçoive de l'argent de la redevance sur la copie privée et je suis encore moins certain que tous les artistes reçoivent tous les mois sur leurs chèques venant de tel ou tel organisme de l'État, voici votre part de la redevance sur la copie privée, c'est scandaleux, moi, ça me met hors de moi. Donc voilà, ça atteint des montants d'un ridicule.
C'est énorme.
C'est lamentable, lamentable. Donc voilà.
Sur la chatroom, ils ont déjà trouvé la parade. Hein. Le cloud, voilà, t'as pas besoin de disque, tu stockes tous tes trucs dans le cloud et du coup, t'as plus de problème.
Oui, d'accord, mais enfin, t'as quand même des disques durs à la maison dont la capacité augmente, et ça augmente toujours avec le temps, je veux dire, c'est normal, nos photos prennent plus de place, tout prend plus de place, enfin bon, bref, c'est une news, vous avez compris, ça m'énerve. YouTube, 24 heures uploadées sur YouTube par minute en mars, vous avez vu la news, donc vous savez combien, on va demander à la chatroom, à votre avis, combien d'heures sont uploadées par minute aujourd'hui, sachant qu'il y avait 24 heures uploadées par minute en mars. Alors il y a un petit décalage, donc je vais dire bonjour Youplala pour laisser le temps, et je vous donne la réponse, on va voir si le chat aura trouvé, c'est 35 heures aujourd'hui par minute. Donc en à peu près 9 mois, Ouais, bon, il savait, la chatroom savait déjà, mais je pense que c'était parce qu'il l'avait vu. Imperator Benus a dit 50 heures, un peu trop. Scal 666 32. Pas exactement. On était presque, c'était 35. C'est quand même une augmentation impressionte, quoi.
Ils doivent en, payer un des droits d'avance sur la copie privée YouTube.
Et quand on voit la courbe, en fait, c'est une courbe qui s'accélère.
Mais c'est ça qui est le plus surprenant, parce que quand on y pense, en fait, YouTube, finalement, entre mars de l'année dernière et aujourd'hui, on n'a pas foncièrement l'impression que c'est devenu plus populaire ou que ça a changé. Enfin, YouTube est déjà le site de vidéo de très très loin le plus populaire de la Terre et tout le monde connaît YouTube. Comment est-ce qu'ils ont réussi à passer de 24 heures par minute uploadée à 35 heures par minute uploadée? C'est 50% de plus, quoi. Enfin, est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a 50% de gens en plus qui uploadent des trucs ou qui utilisent YouTube?
Moi, non. Je pense que là...
Je sais pas s'ils cumulent, en fait. Quand t'as fait une vidéo et que tu l'envoies en basse résolution, moyenne résolution, haute résolution, ils les cumulent, les trucs, ou ils considèrent que c'est...
Non, mais c'est pas ça qui a changé les choses.
Bah, je sais pas. Du coup, tu peux tripler les compteurs, hein, si c'est ça.
Non, mais il faut que tout à coup...
Ils ont lancé...
Il faut que tout à coup, tout le monde se mette à uploader de juste en basse résolution en trois résolutions différentes, enfin. Et je suis sûr qu'ils le comptent, mais...
Non, je pense que c'est dû à une chose, c'est qu'aujourd'hui... Il y a une grosse partie des caméras, des téléphones portables, etc., qui intègrent YouTube nativement comme solution d'upload. Et donc là où c'était la croix et la bannière pour balancer la sauce, charger le truc sur ta machine, rentrer sur le site web, faire la configuration, faire l'upload, etc., maintenant c'est quasiment un clic, un bouton. Et un clic d'un bouton. Et donc c'est beaucoup plus simple. Et je pense que avec la... Je ne sais plus si c'était le 3GS ou quel update de l'OS Apple qui a fait que d'un seul coup, la vidéo mobile a complètement explosé sur YouTube.
Mais ça, c'était le 3GS. Hein. Il était déjà disponible depuis longtemps quand YouTube était à 24 heures par minute. Donc, ça avait effectivement
fait la croissance. Regarde la croissance des téléphones Android avec des caméras qui peuvent prendre de la vidéo. Enfin, je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout si c'est lié à...
C'est sûrement lié en partie, mais c'est quand même surprenant.
Il faudrait poser la question à mon copain Hunter, qui est le patron du product management là-bas. Tiens, je vais lui poser la question.
Il y a Dylan Protogeek dans la chatroom qui donne un élément de réponse assez intéressant aussi. C'est que les vidéos sont passées d'une limite de 10 minutes à 16 minutes. Donc, du coup, aussi, ça.
15, ouais.
Ça rallonge. Il y a plusieurs facteurs, en fait.
De plus en plus de vlogs pourris. D'accord.
Ouais, c'est ça la question, en fait. C'est quel est le pourcentage de contenu, de valeur, parce que c'est ça en fait la grosse question. En même temps qu'on a vu le développement de YouTube exploser en termes de contenu, t'as aussi Hulu, donc, qui est un service vidéo disponible aux États-Unis qui te permet d'avoir accès à tout ce qui est films, séries télévisées, donc où les épisodes sont téléchargés quasiment immédiatement, c'est-à-dire qu'ils passent à la télé et deux jours après c'est sur Hulu, une semaine après c'est sur Hulu, et donc tu peux regarder tous les épisodes de tes séries favorites en ligne avec un peu de pub. Et si tu souscris pour Hulu Plus pour $8 par mois, t'as accès à tout, sans pub, sans machin, avec du HD, et donc tu te poses la question, mais pourquoi je m'embête à avoir un contrat de câble donc télé, qui va me coûter entre 70 et $100 par mois, alors qu'avec Hulu Plus, j'ai quasiment tout, quoi. J'ai juste besoin d'un gros pipe. Et donc, c'est ça la question, c'est qui aujourd'hui a le plus de traction d'utilisateurs, etc. C'est clairement YouTube, mais Hulu est en train de faire un paquet de fric monstrueux. Au bout de deux ans, ils s'en sont à des centaines de millions de dollars de revenus.
Ouais, Hulu et Netflix d'ailleurs marchent très très bien aussi, et on attend toujours ce genre de service en France. On risque d'attendre un moment. Il t'a répondu, ton ami?
Non, j'ai pas fini de taper l'email.
Bon, d'accord. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Une dernière news quand même pour conclure, c'est le fait que le New York Times, on parlait des anciens médias il y a quelques minutes, le New York Times va éditer un top 100 du top des meilleurs livres électroniques, enfin des livres électroniques les plus vendus. Et là encore, c'est un moment un petit peu symbolique pour l'industrie du livre et pour la presse, parce que le top 100, le top des best-sellers du New York Times pour les livres traditionnels, c'est la référence dans le domaine. Et le fait qu'ils se mettent à faire un top 100 des livres électroniques les plus vendus, c'est, ça illustre un petit peu aussi la transition qui est en train de s'opérer, et ça montre qu'elle est devenue vraiment de plus en plus réelle. Donc voilà, c'est un autre signe que les choses sont en train de se passer vraiment et que sont en train d'évoluer vraiment. Bon, nous, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est marrant de voir ces signes-là dans la vraie vie et pas juste dans notre sphère geek technophile qu'on fréquente habituellement, quoi. Donc voilà, le New York Times 100 best-seller e-books.
Ah bien, écoutez, ça m'a l'air d'être un épisode bien complet tout ça.
Eh bien écoute, oui, je crois qu'on arrive effectivement au bout. Et alors en fait, Guillaume nous avait envoyé une statosphère la dernière fois, je ne sais plus si on l'avait passé ou pas, mais en fait il parle de sujets qu'on a largement évoqués, et donc je pense qu'on va sauter sa statosphère aujourd'hui. J'espère qu'il nous en excusera, mais n'oubliez pas que vous pouvez aller voir sur statosphere.fr pour avoir toutes sortes d'informations et de chiffres intéressants sur les données qui font le net. Et ben voilà, on arrive au bout. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir été présents pour cette émission une fois de plus délicieuse. Dites-moi où le monde peut vous retrouver quand vous n'êtes pas sur le rendez-vous tech, Jeff.
Ces jours-ci, c'est plutôt dans les avions parce que je voyage beaucoup, mais autrement, c'est sur Twitter, twitter.com/Jeff, sur Foursquare, sur Plancast, plancast.com/Jeff, et je serai à Paris pour le web. Donc, si vous êtes au web le 8 et 9 décembre, bah, faites un coucou. Ce sera avec grand plaisir. Et puis autrement, comme on dit chez nous, puisqu'on a une grande fête qui arrive, c'est Thanksgiving. Happy Thanksgiving à tous.
Et tu sais que... Merci, merci. Tu sais que je ne peux pas être au web. Je suis dégoûté.
Je suis très, très, très déçu.
Oh, je suis mortifié. Être, hein.
Parce que je voulais en fait faire ton interview sur le stage. Et bah, en fait, ce sera mon backup. Donc, c'est Tom Glosser, le patron de Reuters, parce que je ne peux pas t'avoir, toi.
Il doit être tout content, du coup.
Ouais,
oh,
ouais,
bah, si j'ai ma chance, enfin.
Bon, bah, en tout cas, effectivement, moi, je suis dégoûté, surtout qu'il y a plein de gens qui viennent, que je voulais voir, dont toi, évidemment. Enfin bon, bref, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Ah oui, j'allais oublier Yann, pardon.
Moi,
Yann,
ça n'a pas changé. Hein. Toujours au même endroit, twitter.com.
Yann.
/ Yann Allé, YA2NALET. Et puis voilà, quoi, c'est à peu près tout.
YA2NALET. Merci Yann. Et évidemment, vous pouvez laisser un commentaire sur le blog lrdv.fr. Vous pouvez aussi aller sur iTunes et nous laisser des petites étoiles ou un commentaire là-bas. Vous pouvez je vais peut-être lire un commentaire, ça fait un moment que je n'en ai pas lu. Voyons un commentaire, les commentaires les plus récents. Tac. Alors, le premier que je vois, je ne sélectionne même pas. Salut à tous, ce podcast est toujours... Oula, il est un petit peu long. Ce podcast est toujours un bon moment, mais j'aurais néanmoins une critique. Je trouve que vous avez tendance à beaucoup
trop insister sur...
Ah, merde. sur ce qui se passe aux USA et pas assez ce qui se passe en France et en Europe. C'est pas faux, mais en même temps, la Silicon Valley, c'est quand même aux USA. Exemple, pourquoi ne pas nous avoir parlé en long, en large et en travers de la liseuse Barnes & Noble qui ne sortira probablement jamais en France. D'autant plus que, dans le même temps, est sortie la liseuse Fnac, qui nous concerne beaucoup plus, mais dont vous n'avez pas parlé. Mais je crois qu'on en a parlé la dernière fois. J'ai bien l'impression qu'on en a parlé.
Même si on avait dit que les boutons étaient en français.
J'ai bien l'impression qu'on en a parlé. Je trouve que vous faites parfois preuve de snobisme, désolé, mais nous ne sommes que des auditeurs français. Et sans faire preuve de nationalisme, je pense qu'il n'y a pas honte à parler un peu plus de ce qui se passe en France ou en Europe. Il y a quelque temps, Patrick, tu présentais le podcast comme une émission s'adressant à nos grands-mères. Pas sûr que celle-ci soit très intéressée par Barnes & Noble ou Verizon. Bon, certes, ce commentaire est très critique, mais je vous mets 5 étoiles quand même, car c'est un bon podcast que je ne rate jamais. Mais écoute, Jerry, je pense, c'est Jerry Derman qui nous met ce commentaire, je pense que tu n'as pas tort. Peut-être qu'il faudrait qu'on se tourne un petit peu plus vers l'actualité française. On essaye de le faire de temps en temps. Il faut avouer que quand même, les gros titres, c'est quand même l'actualité américaine, hein, nord-américaine. Mais bon, on a quand même évoqué un petit peu de choses en France aujourd'hui. On a essayé un petit peu.
Ouais. On a mentionné le web.
Par exemple, on a mentionné le web, on a parlé
bon,
de cette histoire de...
Il y a le copain Hunter qui vient de répondre, est-ce que ça vous intéresse?
Bah vas-y.
Donc, traduction simultanée, il nous dit que l'augmentation est effectivement due à la vidéo mobile, mais ce n'est pas... C'est un des facteurs, mais ce n'est pas tout. Il voit aussi beaucoup d'augmentation du nombre de vidéos upload qui sont téléchargées, beaucoup d'augmentation sur la qualité du service, donc qui est plus rapide, donc les gens ont tendance à uploader plus, beaucoup plus de HD aussi, donc high definition. Et enfin, il y a beaucoup de produits maintenant, dont les jeux, qui intègrent l'upload de YouTube directement. Et il parle de Call of Duty Black Ops comme exemple. Et donc, aujourd'hui, tu peux jouer à Call of Duty Black Ops et faire un upload direct dans YouTube de ta séquence de jeu. Et donc ça, ça a énormément contribué récemment à une grosse augmentation de la partie jeu donc, sur YouTube. Parce qu'on voit maintenant des séquences de jeu Black Ops un peu partout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont intégré YouTube nativement dans le jeu.
Voilà. Très intéressante information en direct du cœur.
En direct du cœur de la Silicon Valley, je suis désolé, ce n'était pas de Paris, ça ne parlait pas. C'est quoi déjà, comment ça s'appelle je ne me rappelle même plus l'autre service français. Machin là.
Dailymotion. Ils sont très bien. Dailymotion, donc, on les aime.
Le mouvement journalier, n'est-ce pas, .fr. Donc merci Hunter, qui est le patron du product management de YouTube basé à Mountain View.
Tu le remercieras pour nous chaleureusement. Et effectivement, oui, c'est vrai. Merci. Et effectivement, c'est vrai, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Je vais essayer. Non, mais il a pas tort. Je vais essayer d'intégrer un petit peu plus de news. Francophone. Le truc, c'est que on a parlé de la redevance, par exemple, sur la copie privée. On en fait un petit peu, hein, mais.
Ouais. Le truc, c'est que des témoignages à Rue Montgalet et tout. Moi, je dis, c'est bizarre.
Je parle surtout de ce qui m'intéresse moi. Et c'est vrai que j'ai tendance à plutôt m'intéresser à la recherche et au développement et aux trucs vraiment à l'innovation innovante plus qu'à le quotidien, quotidien de l'informatique. Franchouillard, on va dire, mais bref, enfin, bon, je prends pas ça non plus complètement négativement. Il y a un petit peu de vrai aussi, et comme toujours, nous apprécions le temps que passent les gens pour nous mettre des commentaires ici ou ailleurs. Donc, si vous le faites, n'hésitez pas. Et puis, on le lit, on en prend compte aussi. Donc, merci à vous tous. Moi, c'est Patrick Béja et c'est sur patrickbeja.com. Vous retrouvez tous les liens vers les différents réseaux sociaux où je sévis. Et dans tous les cas, on vous retrouve donc dans à peu près 15 jours, peut-être avec un petit décalage, parce que moi je serai en vadrouille là encore, donc peut-être un petit décalage de quelques jours, mais à peu près dans 15 jours pour le prochain épisode, et puis dans un mois pour le retour de Yann et Jeff. Merci à tous les deux, merci à tous de nous écouter, et puis à dans 2 semaines. Ciao ciao!
À la prochaine, ciao!
Toi et Yann, Numéricable. Jeff, t'es toujours là ou t'as disparu?
Là, je n'entends pas. Tu l'entends, toi?
Bah non. Ben voilà. Jeff,
ah pardon, excusez-moi, j'avais mis. My bad.
Ah ouais.
Bah, il a dit 10 secondes de silence, donc j'ai muté mon micro parce que je suis un grand garçon bien élevé. Et puis bah, j'ai oublié de faire le mute. Pardon. Ma bad.
Je me disais aussi quand même. Ok, bon, on recommence.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.